flotta en Méditerranée.
Occuper la mer contre les frontières.
Ouvrir des brèches
contre l'Europe forteresse.
Pour la liberté de circulation de toutes et tous, sans condition.
Coucou, nous sommes de retour sur l'esplanade du MUCEM à Marseille. Pour ce plateau radio de Flotta, nous sommes toujours sur Radio Galère 88.4. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent en rediffusion. Merci à toutes celles qui nous réécoutent aussi depuis le site radiogalère.org.
Merci, nous allons poursuivre les échanges de ce plateau avec comme invité l'association Espace et l'Antifa Social Club Marseille. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci Federico d'être avec nous aujourd'hui. Tu fais partie d'Espace, un centre de ressources régional mettant en œuvre un ensemble de documentation et de moyens visant à promouvoir l'accès aux droits des personnes étrangères. Pourrais-tu nous dresser un aperçu des dernières évolutions législatives et administratives des politiques migratoires en France ? Pourquoi celles-ci sont associées au terme employé de forteresse administrative ? Pourquoi on peut être amené à utiliser ce terme ?
Bonsoir et merci de cette invitation. Alors, un petit mot rapide sur Espace. Effectivement, c'est un centre de ressources qui existe depuis 25 ans à Marseille, qui a une portée régionale et qui promeut l'accès aux droits des personnes étrangères via du conseil juridique que l'on adresse aux aidants, aidantes, qu'ils soient, elles soient bénévoles ou professionnels, et aux bénévoles du coup. Donc on tient une permanence juridique régionale et on fait des formations pour faciliter la connaissance de ce vaste sujet qu'est le droit des étrangers. Alors les interventions qui précèdent, qui ont été hyper riches et hyper intéressantes, donc merci beaucoup, ont très bien illustré, je crois, comment cette notion d'Europe forteresse s'est construite et s'alimente au fil du temps. Montre donc comment l'Union européenne s'emmure, comment elle déploie des moyens militaires, comment elle verrouille sa politique de délivrance de visa, et comme de fait elle est responsable de nombreuses morts en Méditerranée et ailleurs. Donc c'est un prix évidemment inacceptable en termes de vie humaine. Mais même si c'est un vaste sujet, je me permets de nuancer un petit peu la notion de forteresse en adoptant un peu le point de vue de la politique du séjour et de la politique des visas, du coup du point de vue interne. En réalité, les frontières ne sont jamais fermées. La frontière est par définition un dispositif qui est poreux, qui est ouvert. Bien évidemment, il y a des franchissements légaux qui sont maîtrisés par les États via la politique de délivrance de visa et qui délivrent des visas au compte-gouttes. Donc il y a de l'immigration choisie, on parle de l'élite migratoire, donc évidemment que c'est quelques milliers de visas par an, mais on parle aussi des étudiants. Ou alors les saisonniers, qui évidemment sont indispensables, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais pas que. On parle aussi d'immigration subie du point de vue des États, parce que c'est tout ce qui relève de la migration familiale, du coup le regroupement familial, qui a effectivement connu pas mal de restrictions ces années, et au fil des dernières décennies. Et aussi, il y a des personnes migrantes qui arrivent illégalement à franchir la frontière. Il y a des personnes qui se maintiennent aussi au-delà de la validité de leur visa touristique, par exemple les overstayers, comme on dit en anglais. Et ces dernières personnes en particulier sont une véritable variable d'ajustement du marché du travail illégal, donc informel, souvent donc ce qu'on appelle l'armée de réserve, exploitable et corvéable à merci. Au fil des dernières 40 années, rien que ça, c'est un vaste sujet, mais globalement, les conditions d'obtention des cartes de séjour ont connu un durcissement important. La marge de manœuvre des autorités préfectorales et préfets a aussi considérablement augmenté, et je vais illustrer tout ça un peu par des exemples. Tout comme ont augmenté les abus au guichet, donc tout ce qui relève de l'arbitraire en fait, et du blocage au guichet. Avec évidemment le ravage que fait la dématérialisation du service public, avec des personnes qui sont qui face à un écran et qui se heurtent à toute la violence du système, à défaut de pouvoir casser l'écran pour faire valoir leurs droits, restent en fait dans leur coin. La réforme Darmanin de 2024, qui a été citée tout à l'heure, qui est entrée en vigueur en janvier 2024, s'est donné l'objectif d'augmenter les chiffres de l'éloignement et de fait de fragiliser les parcours en créant les conditions pour que les personnes basculent en situation irrégulière. Tout cela, je vais aussi l'illustrer par des exemples concrets. Donc, du point de vue de l'éloignement, le constat depuis des décennies est le même. Hein, le taux d'exécution des OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, est plutôt faible. Il se situe en dessous de 20%. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la durée de la rétention. Tout à l'heure, ça a été dit par le collectif Anticra. Aujourd'hui, on peut rester jusqu'à 90 jours. Et c'est que du punitif la plupart du temps, parce que c'est prouvé que les éloignements se font soit très rapidement après l'arrivée en CRA, en centre de rétention, soit se font pas. Donc les personnes sont maintenues indûment en rétention, qui devient une véritable punition, une véritable prison. Donc on augmente la durée. Et avec Darmanin, avec cette loi-là, qui n'a pas forcément porté à augmenter la durée de la rétention, mais il se donne un peu l'objectif de créer la terre brûlée autour des personnes sans papier. Comment ? En faisant sauter un peu les derniers verrous de sécurité qui existaient encore, donc les protections contre l'éloignement, pensant aux personnes qui sont arrivées très très jeunes en France, qui sont conjointes de Français, parents d'enfants français, etc. C'était des catégories un peu, on va dire, sacrées, qui ne pouvaient pas faire l'objet, sauf dans des circonstances très particulières du OQTF. Eh bien, ces personnes-là, aujourd'hui, peuvent l'être directement éloignées. La portée des OQTF est portée à 3 ans, donc la force exécutoire des OQTF. Pendant 3 ans, elle peut à tout moment être mise à exécution. Et on a aussi reculé la sécurité juridique qu'apportent les JLD, donc les juges des libertés et de la détention, qui vérifient les conditions de rétention, et dont l'intervention est aujourd'hui décalée à 48 heures, sachant que la plus grande partie des OQTF sont exécutées dans les 24 heures, ce qui veut dire que les personnes ne rencontrent même pas le juge qui va pouvoir se prononcer sur la légalité. La menace de l'éloignement fait un peu partie de l'ADN de la politique migratoire française depuis on va dire toujours. C'est même un mode de gouvernement. Je me permets de conseiller une lecture qui est très, très intéressante. Le livre de Stéphane Lecourant, « Vivre sous la menace », qui vient de sortir en 2025, et qui illustre bien comment les vies sont façonnées, les vies des personnes sans papier sont façonnées vraiment par cette crainte de l'arrestation, de la dénonciation. Avec la loi Darmanin et avec Retailleau et ses consignes qui ont tout à fait suivi la même logique, on rajoute une notion de gouvernement par la précarisation. Donc comment cette précarisation aujourd'hui se déploie ? Eh bien, les conditions de maintien des titres ou de renouvellement des titres se sont remises en cause, en gros. Les parcours sont fragilisés et maintenir un titre de séjour devient de plus en plus compliqué. Donc, on a déjà des conditions qui sont dures, mais une fois qu'on a obtenu le titre de séjour, ben, on risque de le perdre à tout moment, puisque les derniers verrous ont sauté, comme je le disais, y compris, typiquement, la carte de résident qui a été créée en 1984, aujourd'hui, ne sécurise plus le parcours. On a beau être là depuis des décennies, à tout moment, sous prétexte de la menace grave à l'ordre public ou du fait que l'autorité préfectorale constate que la personne n'a pas assez résidé en France sur une durée donnée, cette carte peut ne pas être renouvelée. Donc on est face à des situations totalement aberrantes où des résidents de longue durée perdent leur statut et risquent d'être éloignés.
Merci beaucoup pour cette overview un peu de l'état de la situation qui est plutôt compliqué de résumer en quelques mots et en si peu de minutes, mais merci, ça nous donne vraiment déjà un bel aperçu. Et je me permets de revenir sur un terme que tu as employé il y a quelques phrases, le terme de menace. Et on a l'impression, à travers ce que tu dis, que c'est vraiment à travers ce terme-là et l'utilisation de cela que les politiques migratoires assoivent leur domination et leur pouvoir d'agir directement sur la vie des personnes en situation de migration. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus davantage là-dessus, comment tout ça en fait ça se met un peu en place?
Oui, je pars sur un exemple très concret, très parlant. Il y a eu un ordre d'opération de juin 2025 qui s'apparentait à une véritable injonction de faire des rafles dans les gares et dans les trains pendant une durée limitée de 48 heures. Mais c'était vraiment une chasse aux sorcières à l'initiative du ministère de l'Intérieur pour capter le plus grand nombre possible de personnes en situation irrégulière et ainsi pomper les stats, prendre énormément d'OQTF. Retailleau se targue d'une augmentation en flèche du nombre d'OQTF notifiés depuis l'entrée en vigueur de la loi Darmanin. Et pour cause, en fait, effectivement, les verrous qui existaient ont sauté. Aujourd'hui, il y a aussi un recours à certains fichiers qui se fait de manière généralisée. Et donc, arriver à appréhender les personnes en situation irrégulière devient beaucoup plus simple. Mais moi, je voudrais revenir aussi sur une question fondamentale, à mon sens, celle de la précarisation des parcours. Avec Darmanin, avec cette dernière loi, en fait, on a renversé une logique, ou en tout cas la politique d'intégration à la française, qui était déjà très discutable, évidemment. Mais on a renversé la logique dans une perspective qui est véritablement assimilationniste. Donc, en gros, on crée un modèle de migrant parfait auquel toute personne étrangère en France est censée adhérer, donc avec des règles très strictes qui sont respectées, et qui entraîne, en cas de violation ou d'entorse, la perte du statut régulier. Je me réfère par exemple au contrat d'engagement au respect des principes et des valeurs de la République. On définit contrat quelque chose qui ne l'est pas. C'est un engagement assez solennel qui porte sur tout un tas de points. Hein. Donc on contractualise un peu la possibilité pour la personne de rester. Elle doit respecter ses principes et ses valeurs qui sont assez fumeux, assez larges. Et l'autorité préfectorale a une marge d'appréciation extrêmement large là-dessus, en fait. C'est intéressant de voir que la moindre entorse aux règles, le moindre manquement, notamment si dans la logique préfectorale il est répété, peut entraîner le retrait de la carte. Donc on fragilise le statut de la personne régulière en octroyant au préfet, à l'autorité préfectorale, ce pouvoir supplémentaire qui se rajoute par ailleurs à celui de l'appréciation de la menace à l'ordre public. Menace à l'ordre public qui se fait, appréciation de cette menace qui se fait aussi sur des critères assez fumeux. Le préfet n'est même pas tenu d'appuyer cette réflexion, ce constat sur une condamnation. Donc avoir commis des faits exposant la personne à une condamnation. C'est sur ce fait-là, donc en consultant des fichiers qui sont tenus à l'échelle de la police, que le préfet peut considérer que la personne n'a pas sa place en France. Et aussi, un autre aspect fondamental de cette réforme, c'est qu'on a augmenté les niveaux de langue exigés pour pouvoir accéder à des titres de séjour. Et en parallèle, donc niveau de langue qui était déjà totalement irréaliste pour certaines personnes, mais comment se déploie cette nouvelle politique ? En imposant des paliers à atteindre et une progression obligatoire. En gros, tu pars d'une carte d'un an, puis tu dois passer sur une carte pluriannuelle, et puis tu dois pour finir avoir la carte de résident. Ce n'est pas une logique d'intégration, ça. C'est une logique de contrôle pour l'énième fois. Soit tu apprends le français, c'était la phrase de Darmanin devant l'Assemblée, et il a été applaudi par standing ovation. Il n'y a pas de France sans le français. Donc, et avec des niveaux qui sont rehaussés à la fois, du coup, des personnes qui sont dans une perspective totalement irréaliste d'atteindre des niveaux A2, B1, etc., pour pouvoir maintenir leur droit de rester en France, se verront potentiellement privées de leur titre de séjour puisqu'elles n'évoluent pas au rythme souhaité par l'administration. Mais en fait, en filigrane, ce qui se passe, c'est que ça aussi, loin d'être un vecteur d'intégration, la langue devient un outil de contrôle. Sur la menace à l'ordre public, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais faire court parce qu'il reste que 2 minutes 30. Le recours aux fichiers administratifs, fichiers biométriques se généralise. Je disais tout à l'heure que le préfet n'a même pas besoin de s'appuyer sur une condamnation pénale. Donc c'est une appréciation qui est purement administrative, qui se joue à l'échelle préfectorale et qui peut entraîner le retrait du titre de séjour. Je disais aussi que le verrou principal qui consistait à stabiliser le parcours des résidents avec des cartes qui globalement ne pouvaient pas être retirées, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la menace grave à l'ordre public, suite à l'appréciation préfectorale dans ce sens, peut entraîner le retrait de la carte. Donc cette logique-là illustre à mon sens très bien comment aujourd'hui la politique française de maîtrise des flux migratoires réduit de manière très manichéenne les personnes migrantes à en gros deux catégories. Une catégorie que l'on accepte, voire plutôt on tolère ou on supporte, la catégorie du bon réfugié, du bon mineur, la bonne victime de violence, etc. Dans une logique que Noémie Pathé, une sociologue, qualifie de imposition l'exposition de la biographie subie. Donc il faut en gros rentrer dans les cases que l'on imagine du bon migrant qui a bien souffert ou de petit mineur qui doit prouver son âge, etc. Donc tout est à charge, évidemment. Ça vise une exemplarité du parcours qui est totalement irréaliste. Cette exemplarité est exigée avec fermeté, avec des outils de contrôle qui se développent, qui se multiplient et qui témoignent globalement d'une approche totalement de fermeture et xénophobe. Donc la frontière colle à la peau des gens. Il suffit de suivre au jour le jour ces personnes pour se rendre compte à quel point cette violence est perpétrée aussi une fois qu'on a franchi la frontière.
Merci beaucoup. Oui, c'était aussi pour ça que ça nous semblait hyper important de revenir aussi et après avoir franchi ces frontières. En fait, ces frontières restent présentes et comme tu le disais très bien et tu l'illustrais très bien, cette frontière, en fait, elle colle à la peau des gens, elle est toujours là et l'approche xénophobe, raciste des politiques migratoires, elle ne cesse de criminaliser et d'assurer une forme de répression sur ces personnes en exil. Ou en situation de migration. Donc merci beaucoup pour avoir dressé tout ce cadre. Et on voit bien en fait que toutes ces politiques, elles s'appuient sur des rhétoriques et une idéologie raciste. Je me tourne vers toi, Matt. Les projets de... Tu fais partie de l'Antifra Social Club et à Marseille. Et les projets racistes, on sait bien qu'ils sont au cœur de l'extrême droite. Mais le racisme et les politiques racistes ne sont pas le fruit de l'extrême droite seule. Et on trouvait ça intéressant de revenir là-dessus. L'extrême droite, elle a plutôt tendance à rassembler et à renforcer des idées et structures de discrimination, dont le racisme en fait partie. Et c'est notamment l'un des aspects assez importants de leur agenda et des formes de tout ce qu'ils mettent en place. Mais est-ce que du coup tu pourrais un peu plus nous informer sur comment en fait l'extrême droite utilise en fait la question migratoire pour asseoir ses politiques xénophobes, mais comment aussi elle n'utilise pas que ça, mais comment ça en fait partie?
Oui, bien sûr, je vais quand même partir de la plupart des prises de parole qui ont eu lieu avant, qui ont bien montré en fait, ce racisme institutionnel qu'on a en Europe, et pas seulement en Europe d'ailleurs, mais qui ne se concentre pas uniquement sur la question des frontières. Par contre, il est indéniable que la montée de l'extrême droite et la diffusion large de ces idées, elles ont de réels effets. Même sans prendre le pouvoir, en fait, l'extrême droite institutionnelle, j'entends les partis politiques, mais aussi les médias d'extrême droite, qui inondent de rhétoriques racistes, notamment celle de la citadelle assiégée, des parallèles immigration-insécurité, de l'injonction aux bons migrants, dont on a beaucoup parlé. Un exemple parlant, ça va être le média Frontières, dont le nom en dit long d'ailleurs, au vu de notre sujet, qui passe son temps à toujours vouloir associer immigration et insécurité. L'année dernière, le 4 octobre, ils sont venus au CRA du Canet, justement, faire des vidéos en caméra cachée en se faisant passer pour des avocats. Et en fait, si vous regardiez le contenu de leurs vidéos, tout était fait dans le but d'attiser la haine contre les personnes incarcérées dans le CRA. Et tout ça, c'était bien sûr accompagné d'un bon vieux mensonge de cette vie qui serait agréable dans les CRA et tout ça aux frais du contribuable. C'est vraiment ce qu'on a aussi des discours de l'extrême droite qu'on va entendre sur la prison, sur l'univers carcéral de manière générale. En fait, la diffusion de telles visions, elle a une influence sur l'entièreté de la classe politique, pas seulement à droite ou à l'extrême droite. Et surtout, elle va renforcer et légitimer les décisions racistes qui vont être prises au niveau du gouvernement. Là, on nous a présenté quand même plusieurs lois qui étaient particulièrement à l'attaque contre les migrants, particulièrement racistes. Il y en a plein d'autres. Et elles ont souvent été présentées comme des réponses aux demandes de l'extrême droite, comme si c'était du bon sens d'y répondre, comme si c'était OK. Alors, bien sûr, on va osciller entre l'orientation plus ou moins raciste du texte au faveur du besoin de se faire passer pour respectable, ou parfois comme la reprise telle quelle des idées d'extrême droite. D'ailleurs, là, ce que nous disait le collègue d'Espace, en vrai, les politiques de Darmanin ou de Retailleau, la frontière avec l'extrême droite, elle est quand même très mince. On la voit pas. On a les mêmes discours, les mêmes injonctions incessantes aux migrants de devoir se comporter en bon intégré. Tu es toujours suspect. Tu n'as pas le droit de te comporter comme tu l'entends. Le RN a exactement le même discours. Après, évidemment, l'arrivée au pouvoir de groupes d'extrême droite, ça a des effets bien plus importants. La situation en Italie, elle n'a fait que se dégrader à ce point de vue-là depuis l'arrivée du pouvoir de Meloni. Mais au lieu de citer tous les éléments massus, je vais juste m'attarder sur le cas de la Pologne, qui en 2022, avec un gouvernement d'extrême droite, a juste réalisé le rêve de Trump, mais en Europe. Ils ont construit un mur de 186 km de long le long de la frontière biélorusse pour empêcher les migrants de passer. Donc c'est vraiment des effets très concrets. Quand on parle d'extrême droite au pouvoir, il ne faut pas oublier que la montée en puissance de l'extrême droite, voire leur arrivée du coup au pouvoir, c'est aussi une conséquence de n'avoir qu'une vision raciste pour la gestion des frontières en Europe. On ne parle que de crise migratoire. L'importance du racisme institutionnel qui est profondément ancré dans nos sociétés, elle est à la fois alimentée par l'extrême droite, mais elle l'alimente en retour. C'est pour ça qu'il faut que nous, on considère qu'il faut combattre toujours les deux.
Merci pour tout ça. On voit bien que, du coup, comme ce qu'on disait, et aussi lorsqu'on illustre en fait aussi les politiques migratoires qui sont rattachées à des gouvernements de droite ou des gouvernements d'extrême droite, on voit bien la place qu'a le racisme dans ces politiques-là. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'extrême droite en plus de pousser de plus en plus ces politiques racistes et discriminatoires ? Quand je parle de ça, je pense par exemple au lien entre l'extrême droite, les extrêmes droites institutionnelles et groupusculaires. Est-ce que tu pourrais un peu nous éclaircir là-dessus ?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, il faut vraiment se dire qu'actuellement, la lutte contre l'immigration et contre l'islam, c'est le principal combat des extrêmes droites européennes. Cette vision, elle est largement partagée dans les principaux partis d'extrême droite, avec cette évolution du discours raciste qu'on avait avant la Seconde Guerre mondiale, pseudo-scientifique. Tout ça a maintenant un racisme plus axé sur la culture, avec des cultures inassociables, ce genre de rhétorique qui a pu le faire passer comme parfois plus acceptable dans des médias, etc. En fait, cette stratégie, elle a permis l'explosion de ces discours racistes, mais aussi leur propagation encore plus grande avec... en pouvant se passer du côté moral du racisme, du combat moral face au racisme. Mais pourtant, en fait, si on regarde ces discours et cette lutte contre l'immigration et l'islam, c'est exactement la même proposition que les groupuscules identitaires. Et eux, ils proposent de lutter contre l'immigration non blanche et l'islam, qui est assimilé à une religion étrangère à l'Europe, et qui sont vus comme un péril pour la civilisation européenne. Bien sûr, ce n'est pas des idées qu'on va retrouver que dans les groupuscules identitaires, dans les groupuscules qui sont de suprémacistes blancs ou de fascistes à l'ancienne. On va également retrouver ces rhétoriques, évidemment. Il faut savoir que là, je vous fais un portrait très global, mais les types de racisme et l'importance de tel ou tel point va aussi énormément différer suivant les régions en Europe. Mais la convergence, elle n'est pas que dans les idées. Elle est aussi dans les actions. En effet... La progression des partis d'extrême droite s'est faite en association avec celle des groupuscules et s'est exprimée dans des actions notamment aux frontières ou des actions contre l'immigration ou les immigrés. La collision des extrêmes droites institutionnelles et groupusculaires, elle est assez documentée en Europe, on a des cas dans beaucoup de pays. Mais elle permet surtout de mettre en mouvement des militants en première ligne et de les mettre en lumière également. Là, je reviendrai juste par exemple en France sur le cas de Génération Identitaire, qui faisait des actions un peu coup de poing, de communication à la frontière avec des hélicoptères pour empêcher les migrants de passer, pour les repérer. Et vraiment, ils adoraient passer par des coups de com'. Nemesis marche aussi beaucoup avec ce genre de stratégie. Mais du coup, cette alliance, elle a été essentielle, notamment dans tout ce qui a été les émeutes racistes assez terribles qu'on a eues sur ces dernières années, que ce soit en Grèce, en Espagne cet été, en Angleterre l'été d'avant. À chaque fois, on a vu le même schéma se répéter. On avait bien sûr les militants suprémacistes blancs qui étaient en première ligne, mais on a vu se mettre en mouvement aussi de nombreuses personnes sensibilisées ou sensibles aux idéaux racistes et se sont mis très vite en action grâce à la diffusion notamment de fake news sur des agressions perpétrées par des migrants qui soient vraies ou fausses, c'était pas la question. C'est qu'en fait, le martelage qui avait eu lieu avant, il était tellement important. L'idée même du danger civilisationnel, elle était tellement présente chez la plupart de ces gens que ça a facilité la croyance à l'information et la mise en action. Et donc, ce qu'on a eu à la fin, c'est-à-dire des agressions racistes, des ratonnades, des attaques de mosquées, de centres d'accueil de migrants, etc. Et ça, on l'a retrouvé dans plusieurs pays européens.
Merci beaucoup pour tous ces exemples très concrets. Je suis désolée, il nous reste plus beaucoup de temps, mais on avait une question assez importante qu'on souhaitait aborder tous et toutes ici. C'est que, avec l'Antifa Social Club, en tant que groupe antifasciste, vous considérez la lutte contre l'extrême droite comme primordiale. Et comment collectivement, en fait, il nous est possible de lutter contre ? Au sein de Flota, on parlait qu'il était important de réoccuper les espaces, qu'ils soient maritimes ou terrestres, mais de réoccuper les espaces de manière à reprojeter les idées et les demandes que nous portons et les demandes auxquelles nous croyons. Comment il est possible aujourd'hui de s'organiser pour faire en sorte que ces idées-là, que ces idées fascistes, elles aient le moins d'espace possible ?
Bien sûr, il faut continuer à s'organiser, à se combattre, à combattre en plus des partis d'extrême droite, ces groupuscules qui vont être en fait des vrais fers de lance des mouvements d'extrême droite. Mais pourquoi ? En fait, ce sont aussi des organisations qui sont structurées et combattables à notre niveau. Donc sur les mêmes terrains échelles que les nôtres, c'est-à-dire au niveau des rues, des manifestations, sur les réseaux sociaux, dans des batailles plus culturelles qu'on va avoir et idéologiques. Mais bien sûr, notre collectif, on pense que ce n'est pas suffisant. Et notamment, une campagne comme Flota le montre. En fait, nous devons continuer l'immense travail de fond de l'antiracisme politique contre le système raciste lui-même. Quand je disais que lui-même engendre l'extrême droite et est engendré par. Pour revenir en fait, au sujet des plateaux, qui est résister et ouvrir des brèches, je pense qu'il faut continuer de penser différentes stratégies contre toutes les frontières de notre société. On prend frontière dans un sens volontairement large, comme l'ont fait les collègues avant nous. C'est pas seulement la frontière étatique, c'est contre notre société raciste et discriminatoire. Et ce combat, il passe aussi bien dans le soutien aux collègues en migration et les collectifs de lutte contre les frontières, mais aussi de solidarité et de lutte à l'arrivée, ce qui a été le fil conducteur de notre journée. Je parle de lutte, par exemple, pour l'accès au logement, à des droits, on en a vu beaucoup, à juste l'arrivée, à se sauver. Et en plus, être des groupes organisés, ça permet d'agir beaucoup plus facilement. Et on a, par exemple, des exemples d'ultra-antifascistes en Pologne ou en Biélorussie qui aident au passage à la frontière parce que ce sont des groupes très organisés. On a les cas des associations qui peuvent être aussi moins politisées ou qui se le disent moins politisées, qui vont aider. Et par contre, l'extrême droite, elle va les prendre comme cible. Je parlais de génération identitaire. SOS Méditerranée, ils le désignaient comme un ennemi. Et ici, à Marseille, ils ont attaqué les locaux. Plus, ils ont aussi lâcher des banderoles contre eux régulièrement. Bien sûr, pour pouvoir aller plus loin, et nous, politiquement, ce qu'on veut, c'est que l'extrême droite... l'implication de groupes militants pour un changement radical... Nous, on veut l'implication de groupes militants pour un changement radical de système raciste, et c'est indispensable pour pouvoir dépasser les problématiques d'accès au minimum vital seul. Et du coup... je vais te laisser finir le mot de la fin sur des collectifs qu'on a ici à Marseille qui permettent de lutter contre ça.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la transition aussi. Ici à Marseille, nous avons plusieurs collectifs et luttes contre les frontières, comme le Mamba, par exemple, qui veut penser les outils d'auto-organisation collective. En effet, comme on l'a vu avec vous, il est primordial de continuer de permettre l'auto-organisation des groupes des personnes migrantes. Comme Binkadi, qui vont prendre la parole juste après un petit temps de musique pour clôturer ces plateaux radio de l'après-midi. Mais on a aussi plutôt parlé des luttes aux frontières et des luttes aussi au sein des CRA, qui sont les premiers en fait à réagir, que les personnes, en fait, les premières personnes concernées sont les premières à réagir pour lutter pour leurs droits, pour le droit à une vie digne. Et donc, c'est important aussi de laisser la parole à toutes ces personnes-là, à toutes ces personnes qui luttent contre des lois et des décrets et des actions et des procédures injustes et immorales. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris la parole avec nous aujourd'hui. Pour votre présence, et on se retrouve dans 5 toutes petites minutes pour la troisième et dernière partie de cet échange. Et je vous laisse avec une musique sélectionnée par Federico.
come un branco di lupi che scende dagli alti piani ululando, o uno sciame di api accanite divoratrici di petali odoranti precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti? Cosa possono le leggi dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da gettare come ami tra la gente? La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Interessa che da sinere anche. Con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Innere sauge, da sinere auge. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Ma quando ritorno in me, sulla mia via, a leggere e studiare, ascoltando i grandi del passato, mi basta una sonata di Corelli perché mi meravigli del creato.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur l'esplanade du Mucem à Marseille pour cette dernière partie du plateau radio Flotta. Nous sommes toujours en rediffusion sur Radio Galère également, sur 88.4 en rediffusion. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et merci à toutes les personnes qui nous réécoutent aussi sur le site de Radio Galère. Nous sommes énormément plus nombreux autour de cette table, c'est super. Et je vais vous laisser du coup continuer les échanges.
Du coup, on est avec les collègues de Binkaji. Et là, il y a Richard qui va nous lire un texte de son histoire en anglais. Et après, on commencera les discussions. Merci à tous. Allez, à toi.
Two. We came to Kios on Friday last week to sleep here. The policies in Marseille should help us for sleeping and housing school documents. And then again, where we are sleeping is not good. We are a children, we are not adults. We were rejected from other places because they are not good. Because they were come and tell you that you are not a minor, so you should leave. We need a protection and we want to stay in France. I lost my parents. I have not seen my mother since I left Ghana. When I lived in Ghana, I was young. I was 7 years old. Later, my father took me to Morocco, and my father got sick, and he died when I was 9 years old. And then one of my father's friends from Morocco took care of me. He gave me money to buy food and took me to his house to sleep there. He helped me to cross the sea with a boat to Spain. When I was 13 in Spain, I was in Barcelona and then I was in Foye. When I was there, I didn't go to school, but they give me food and money. After that, somebody at the Foye was going to France, so I followed him. We took the bus. When we came to Marseille, he left me in Saint-Charles. And I didn't see him again. Then I slept at the train station, Sansha, for 1 month. A white lady was passing and I was asked her to give me money. She asked me, how old are you? And I said that I am 14. And she said, go to Adapres. They take minor people there. I went there and they wrote my name and asked me about my mother's name and my father's name and my brother's name. After that, they took me to a hotel. It was called a La Clave. They called a translator in Akan for me, but Akan is not my language. My language is Ashanti. The person asked me, why did you leave your country? How old is your mother? How old is your father? Why did you not go to school in your country? I said, I don't know. He asked me nonsense, question that I did not understand. And he told me that everything will be fine. The next day, they came and threw me out of the hotel. They just said that I am not a minor. They were lying. They just said that I have to leave and left me on the street. Then I was living on the street, and then somebody, a volunteer, took me to a house for me to sleep there. I stayed at that person's house for 4 months. Then the person said, I can't host you for long. You should come and sleep at the camp so you can get a place to sleep, Richard. Thank you very much.
Merci beaucoup, Richard. Du coup, il nous raconte, c'est une histoire qui est arrivée à tellement d'autres minots. Ils quittent le pays très jeune. C'est déjà très compliqué. Et une fois qu'ils arrivent ici, ils se retrouvent abandonnés, dorment dehors. Ils se font maltraiter en fait par les institutions comme l'ADAP13 ou le département. Et du coup, là, Richard, il a rejoint le campement, un campement qui a eu lieu cet été pour demander des logements pour les mineurs déminorisés par l'ADAP13. Un campement qui a été soutenu et où ont participé les jeunes exilés de Binkadji, qui est un collectif qui lutte ici à Marseille, qu'on voit régulièrement depuis un bon moment déjà. Et du coup, qui sont avec nous? Et je vais vous poser en vrai la première question. C'est comment est né votre collectif et surtout pourquoi vous avez créé ce collectif?
Bonsoir à tous. Je suis l'un des délégués du collectif Binkadji. On va essayer de parler qu'est-ce qui est Binkadji, comment le collectif a été créé. Le collectif Binkadji a été créé l'année dernière, après avoir nous mettre dans la rue. On ne savait pas comment il faut faire. Donc nous, les jeunes, avec le soutien des bénévoles, on s'est réunis ensemble pour créer le collectif Binkadji. Binkadji veut dire, dans notre langue maternelle, que la paix est mieux, l'union est mieux. Donc on s'est réunis ensemble, on a fait beaucoup de luttes. On a essayé de récupérer l'église du Vieux-Port pour pouvoir avoir place, les logements. Bon, ce n'a pas été facile, mais grâce à bon Dieu, on a eu la place. Et après ça, on a essayé de faire des manifestations pour l'inscription à l'école. On a fait des mois de manifestations, on a fait des mois devant la DSDN, grâce à Dieu aussi, avec la manifestation. Et les luttes, on a eu place à l'école. Et puis actuellement, ceux qui ne sont pas inscrits à l'école, c'est les nouveaux arrivés. Bon, le Pinkadi, nous sommes là. Un jeune, quand tu arrives nouvellement, on te met dans la rue, tu ne sais pas là où il faut partir. Nous, on te récupère, on te met dans le collectif. Vu que, bon, en tant qu'un jeune, tu vas traverser le désert, la mer, arriver ici, tu vas te dire, bon, tu vas te faire une vie meilleure. Tu viens trouver que, bon, c'est le contraire. S'il n'y a pas des gens autour de toi pour te mettre sur le droit chemin, pour t'encadrer, ça ne serait pas facile. Donc, nous sommes là pour ça, le collectif Pinkadi. Même si nous, aujourd'hui, ça n'a pas été mieux pour nous. Ceux qui vont venir derrière nous, on ne veut pas qu'ils aussi les galèrent que nous. Tu vois, donc, le collectif Pinkadi, c'est un peu ça.
Du coup, vous êtes très complet, parce qu'à la fois, vous faites de la solidarité, vous menez des luttes. Et est-ce que là, par exemple, vous pourrez nous parler de difficultés en vrai que vous avez eues dans les luttes là sur les dernières années, toute l'année qui vient de se passer, pardon, que vous avez pu connaître?
Oui. Oui, ça parle pas. Oui, on a eu les difficultés. C'est que, bon, les manifestations qu'on faisait, on a fait des mois avant d'avoir les résultats. Tout ça, c'est les difficultés. Il y a d'autres aussi qui tombent malades, il y a d'autres qui sont là, qui n'arrivent pas à manger, mais avec tout ça, ils ont la force quand même pour manifester, pour continuer la lutte. Même avant que nous, ils vont nous inscrire à l'école, malgré qu'on avait fait, on avait fait le test, tout ça, mais nous disaient que non, on ne peut pas avoir de place à l'école. Mais avec tout ça, on avait toujours le courage de manifester parce que c'est obligatoire. C'est notre droit d'aller à l'école, vu qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont jamais été à l'école dans les pays. Bon, on ne peut pas être dans un pays comme la France sans partir à l'école. Donc, les difficultés qu'on a eues, c'est ça qui est là. On a fait des mois, on est là, pas résultat. Et aussi, tout récemment, au kiosque, le campement. On a essayé de récupérer le kiosque pour avoir place. Ben, la police est venue dégager tout le monde. Tout ça, c'est les difficultés. Bon, ces jeunes-là aussi, c'est retour dans la rue. Tout ça, bon... Tu vois, c'est pas facile.
Non, vraiment. Et vous nous parliez justement de l'importance que vous aviez, que vous ne vouliez pas que les autres connaissent les galères que vous avez connues. Et justement, à votre avis, pourquoi c'est important justement de continuer à s'organiser dans des collectifs comme le vôtre pour pouvoir lutter ensemble? Qu'est-ce qui, pour vous, est important en fait, là, dans ce que vous faites?
D'abord, il faut le remarquer que faire la lutte, seule la lutte libère. Dans toute communauté au monde, ils ont tous fait la lutte comme ça pour se libérer. Donc c'est pour cela, nous aussi, on a essayé de prendre notre destin en main. Vu que la situation de ce pays, ça ne fait qu'empirer, donc il faut faire la lutte, rien que la lutte, seulement que la lutte libère. C'est pour cela, nous, on a pris notre destin en main pour faire avancer les choses. Peut-être ça sera difficile pour nous, ça sera dur pour nous d'obtenir ce que nous voulons, mais peut-être avec notre travail et notre détermination, peut-être ceux qui vont venir derrière nous puissent avoir la paix quand même, ils puissent avoir ce qu'ils désirent. Voilà, puisque tout le monde ne peut pas avoir la chance de faire la même chose. Donc nous, on se bat, on lutte nuit et jour pour préparer l'avenir de ceux qui viendront d'après nous.
Vas-y.
Bah, c'est ça que mon collègue vient de dire. Tout, on essaie de mobiliser, d'être en forme. Et pourtant, c'est pas ça. On rencontre beaucoup de difficultés, mais on a eu des choses très positives. Par exemple, moi, aujourd'hui, je pars à l'école. Je me trouve dans une situation, c'est une émotion pour moi. C'est immense, en fait. C'est ça, en fait. On a eu des difficultés, mais on a eu des résultats positifs, quoi. C'est ça, la question.
C'est très à propos, en fait, avec justement, ce matin, on parlait de briser des frontières. Là, en fait, c'est ce que vous me dites, c'est ce que vous essayez de faire, vous êtes en train de faire. C'est un peu tout ce qui a été le propos de Flota, d'occuper la mer, de continuer à occuper les espaces. Là, il y a eu l'occupation, notamment du kiosque, qui a été particulièrement éprouvante, mais où beaucoup de gens se sont quand même mobilisés pendant longtemps, pendant quasiment 2 mois cet été, malgré l'absence de réponse. Et vous avez pu suivre, justement, il y a eu ces difficultés, mais est-ce que vous en sortez aussi avec de nouveaux besoins? C'est quoi les plus gros besoins que vous avez là actuellement, en termes de, que ce soit juste vous, d'organisation, d'aide, d'envie aussi, bien sûr?
Bon, ce que moi j'aimerais dire, parce qu'au sein du collectif, tu sais, nos gros besoins, ça sera l'une des... Il faut que ça vienne de nous d'abord, il faut que nous, on soit courageux. Si nous on veut que les gens nous aident, il faut que nous-mêmes on soit courageux, on doit montrer que ah, vraiment on a besoin d'aide. Ça seulement, il faut que nous on s'organise bien. Donc, il y a ça aussi. Et en plus, tu sais, la lutte là, c'est pas tous les jeunes qui connaissent la lutte. Par exemple, quand les nouveaux jeunes viennent comme cela, quand tu vas leur parler, ah bon, il faut qu'on fait une manifestation, soit on fait une occupation, ils ne savent pas. Parce que tu vois, depuis au bled, ils ne savent pas faire. Moi, depuis que je suis là, moi, c'est quand je suis arrivé ici, c'est là que j'ai connu qu'on parle de manifestation, on parle d'occupation. Sinon, quand moi j'étais au bled, je ne connaissais pas ça. Donc au début, pour moi, c'était un peu difficile. Bon, au fait, je ne me sentais pas faire, mais vu que bon, c'est pour mon propre bien aussi, il faut que je m'engage dedans. Donc, en tant que nous, les jeunes, on doit s'engager dedans d'abord. Et que pour que on a besoin de soutien, aussi. Ceux qui sont déjà dans la lutte, pour qu'ils nous montrent le chemin, comment on arrive jusqu'à ce qu'on veut obtenir. Donc, il faut qu'il y ait tout ça là aussi dedans.
Bah, à ce sujet, il y a plein de trucs à dire. On a besoin de plein de trucs parce que moi, souvent, même si ça ne fait même pas une semaine, je pars à l'école. Tu vois, le soir, je n'ai pas mangé. Le matin, je suis parti à l'école, je n'ai pas mangé. J'ai quitté à midi. J'ai forcé parce que le cours, c'était important pour moi. J'ai un CAP en élect, tu vois. J'avais cours de 8h à 12h. Je me suis forcé de rester. Sinon, j'avais mal au ventre parce que je suis parti, je n'ai pas mangé le soir. Je suis parti, je n'ai pas mangé. Le matin, je me réveille, je pars à l'école. Rien manger. Je me suis forcé à rester là-bas. Donc, on appelle tout le monde qui veut nous aider, nous soutenir. Il y a plein de trucs à dire à ces propos quand même. On a besoin de plein de trucs à ce sujet. Ouais, la nourriture et je sais pas quoi dire encore.
Franchement, le collectif Benkadi a besoin de soutien. Parce que sans le soutien, nous les jeunes, nous ne sommes rien. Sans le soutien, nous ne sommes rien. On parle ça chaque fois, mais pour montrer au soutien, pour qu'ils puissent avoir toujours le courage, c'est à nous d'abord. Parce que vivre dans la rue, c'est quelque chose, c'est pas facile. Vivre dans la rue, ce que nous on fait actuellement, aucun blanc peut le faire. Nous ne sommes pas venus en France pour faire de la banditise ou autre chose. Nous sommes venus ici en France pour se faire une vie meilleure. C'est ce que les Français oublient. Donc, franchement, on a besoin de soutien, même les manifestations. S'il y a le soutien autour de nous, nous, ça ne nous fait pas peur. Parce que bon, pour dire même s'arrêter devant un policier, si ce n'est pas ici, nous, ces choses, on n'est pas habitué à ça. Mais quand on s'assoit, on imagine, c'est le truc. Si nous, on ne le fait pas, personne ne va le faire à nos places. La lutte continue toujours, c'est ce qu'on dit. Et tant qu'il n'y a pas de paix, les Marseillais ne vont jamais rester en paix. Il faudrait qu'ils doivent avoir solution, si ça... Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Vraiment, on a besoin de soutien. C'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez poser.
Je vais aussi ajouter que le soutien qui est là, c'est d'accompagner les unes, de nous accompagner dans notre lutte. La lutte, ce n'est pas seulement pour sortir dans les rues, prendre les pancartes, pas seulement ça. Tout le monde peut faire à sa manière, à travers les écrits, les dessins, et les dénonciations, il faut dénoncer ce qui est cassé. Ils font tous des choses pour nous amadouer, nous déstabiliser, nous faire perdre la morale, mais ça ne marchera pas parce que nous sommes forts
mentalement comme physiquement. On ne va pas laisser comme ça. On ne va pas laisser les choses comme ça. On va dénoncer. Dénoncer, ça va changer un jour. Voilà, il faut accompagner les jeunes, nous accompagner dans les différentes luttes et dénoncer encore ce qui se passe dans la ville. Ce qui se passe ici, il faut dénoncer. Ils savent très bien, mais ils font un tape l'œil et ferment les yeux comme s'ils ne voient rien. Alors qu'ils sont au courant de tout. C'est pour cela que moi, je les accuse parfois de former les malfrats. C'est eux qui forment les malfrats. Parce que les jeunes, il faut encadrer un jeune. Il faut encadrer avant qu'il ne soit trop tard. C'est maintenant qu'il faut encadrer, mobiliser, mettre les jeunes sur le droit chemin. Si aujourd'hui, il n'y a pas ses parents ici, parce qu'il n'y a pas nos parents ici, il n'y a pas nos frères, nos amis comme ça, il n'y a que des bonnes personnes qui nous viennent en aide. Donc pour ça, c'est la responsabilité, c'est à l'État de nous aider, de nous former, parce que moi, personnellement, je ne voulais pas faire école professionnelle. Je voulais continuer les études. Mais la situation maintenant, j'ai vu que je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas continuer les études comme ça et faire l'université. Ça ne me permet pas, ça ne m'arrange pas. Mais s'il y avait l'aide comme ça, il y avait soutien, j'allais continuer parce que ça a toujours été mon rêve. Donc comme ça, il faut qu'on nous vienne en aide pour nous former. Parce qu'une population qui dort en paix, c'est parce qu'il n'y a pas de banditisme. Il n'y a pas de criminels, c'est pour cela. Mais si aujourd'hui, les jeunes ne sont pas formés, tu ne fais rien maintenant, tu vas grandir, tu n'as pas fait à l'école, tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas fait la formation, comment tu vas survivre? Avec cette société que nous voyons aujourd'hui là, ça ne fait qu'empirer. Il n'y a que des racistes qui augmentent. Il n'y a que des racistes qui sont là maintenant. Donc, il doit nous aider à aller à l'école, faire notre formation. C'est ça.
À ce sujet, mon ami a touché quelque chose. J'en ai dans mon cœur, ça fait longtemps. À ce sujet, ce qu'il dit comme ça, nous, on est trop motivés. Et il y a certaines personnes parmi nous, on est couragés. Sinon, moi, je vois souvent mes frères qui sont dans la rue. Ils font rien, ils ont déjà fini de salir leur image. Une fois quand tu viens ici, ils te font croire que tu n'es pas la bienvenue. C'est la politique, hein. Je suis un gamin, mais je connais tout ça, je vois. J'ai vécu un peu. J'ai rencontré tant de difficultés sur le chemin avant que j'arrive ici, mais je vis. Hein. Je vis parmi eux. Ouais. Quand tu viens, tu n'as pas le menu. Tu te retrouves dans la rue. Tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de faire les trucs qui sont faciles pour toi, pour nourrir, pour te nourrir. Pour... Ce que tu as besoin, en fait, c'est ça. Tu n'as rien à faire. Ils ont déjà fini dans les centres de rétention pour salir ton image pour rien. Nous, on n'est pas mauvais. Hein. On est bon. Sans te mentir. La différence est là.
C'est exactement.
La différence est là. C'est pourquoi je répète souvent, c'est ma philosophie. La guerre appartient aux plus faibles. Ceux qui déstabilisent et méprise les autres. Les plus forts sont ceux qui se battent dans la dignité et le respect des autres. C'est ça que j'ai à dire. Tout le temps, c'est ma philosophie. J'ai grandi avec ça. Chaque jour, quand je me réveille, je grandis avec ma philosophie. Je me réveille avec une nouveauté. C'est ça.
Vraiment merci. Ça relance. C'est un peu la discussion qu'on a eue en plus avec toi tout à l'heure avec les collègues de l'Anticra. Sur la fabrique des délinquants, de la délinquance, tout ça. En vrai, est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on conclue? Ou c'est bon pour
vous? Oui, je vais parler. En fait, je vais essayer de parler un peu sur le côté de la frontière Italie, la France. Vu que, imaginons, on traverse la mer, on arrive à... En Italie, beaucoup d'entre nous disent que non, on va venir en France. Ce n'est pas parce qu'on aime les Français ou soit on aime la France, soit la France est jolie. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que c'est la France qui nous a colonisés. Et grâce à eux, on arrive à s'intégrer un peu dans la langue française. Et raison pour laquelle nous, on aime la France. Mais quand on arrive ici en France, les Français ne veulent pas de nous. C'est quelque chose, ça touche vraiment au cœur. Moi, chaque fois, je pense à ça. Ça me touche vraiment au cœur. C'est eux qui étaient premiers à partir chez nous. Mais nous aussi, on vient chez eux, ils ne veulent pas de nous. Jusqu'à les Français, il y a des Français même qui paient l'argent aux Libyens, aux Algériens, pour ne pas que nous, on rentre chez eux. Mais pourtant, ils vont chez nous matin et midi soir. Quand on arrive aussi en Italie, on dit on va rentrer en France. Quand ils nous attrapent, ils nous prennent, nous envoient jusqu'en Italie encore. On souffre. On peut faire des semaines avant de rentrer ici, en France. Mais quand on arrive, on peut faire la banditise, ou soit rester dans la rue, faire des bêtises, mais on évite tout ça. On évite tout ça. Quand on arrive, on suit la loi, ce qu'il faut faire, nous, on le fait. Mais avec tout ça, on nous déteste, ils ne veulent pas de nous, on vit dans la rue. Mais nous, on a toujours le courage, vu qu'on se dit quoi, le temps de Dieu n'est pas le temps de être humain. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça serait dans le passé. Il y a des gens aujourd'hui qui se font les difficultés, puisque nous, on a connu les gens qui se font des années, qui dorment dans la rue en Europe. Mais aujourd'hui, ils vivent en l'Est. Donc, pour nous, ça serait la même chose. Donc, tout ce que j'ai dit à mes frères, c'est de prendre le courage. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, personne ne peut faire ça à notre place. C'est à nous de faire ça. Si nous, on a le courage, les soutiens qui sont autour de nous, ils vont avoir plus de courage encore de nous accompagner. Et on arrive, les conneries, tout ça. Et tout ce qu'il peut dire, vraiment, je remercie au soutien. Parce que quand tu attends Benkadi, c'est les soutiens qui font Benkadi. Moi, je les salue de ma part, si j'avais la possibilité. Ils allaient gouverner la France, mais ça viendra. Je remercie chaque fois.
Yes. Ouais. Ouais, merci, merci, merci. Juste on doit. Ok, merci, merci beaucoup. Bon, ce que moi j'aimerais dire, c'est que nous sommes venus en France. Okay. Nous sommes venus en France pas en tant que voleurs. Nous sommes venus en France pas en tant que criminels. Et la France ne fera pas de nous des voleurs et des criminels. Nous sommes. Merci.
Oui. Merci, merci beaucoup à vous les gars, merci pour tous ces rappels et pour votre lutte qui est si importante et il faut continuer de vous soutenir, il faut continuer d'être là avec vous. On est un peu dans la rapidité, mais c'est la fin de ce plateau radio. Nous tenons à remercier tous les intervenants et intervenantes pour leur intervention, leur partage d'expérience et leur positionnement face à ce système anti-immigration, raciste et violent qui opprime et discrimine beaucoup trop d'entre nous. À l'issue de ces échanges et face à ces logiques dominantes, il me semble qu'il nous reste tout de même des manières d'agir, des manières de faire face. Et c'est sur cela que nous souhaitons clôturer la discussion. Il est essentiel de se soutenir mutuellement dans nos luttes et de ne pas arrêter de nous organiser collectivement pour nous défendre, pour défendre le droit de vivre de chacun chacune, pour montrer collectivement qu'un autre fonctionnement est possible, pour la liberté de circulation et la liberté de choisir. Et ça, nous l'avons fait aujourd'hui. Il faut que nous le poursuivions à Marseille et partout ailleurs, où cela est nécessaire. D'ailleurs, on vous invite à nous retrouver demain pour un concert de soutien à tous les collectifs qui étaient présents aujourd'hui à 20h à l'Embobineuse demain. Je souhaitais passer aussi un message de Hassan qui est venu avec son association présente au Maroc, qui souhaitait faire passer le message que le 5, 6, 7 février 2026 à Oujda, il y aura une commémoration en hommage à toutes les personnes qui ont tenté d'effectuer les traversées de cette mer dont on a parlé depuis les débuts et qui ont pu perdre la vie en tentant cette traversée. Je vous invite à vous informer sur les prochaines mobilisations aussi à venir. Attaquer les discours de haine et de division et en proposant des nouveaux, c'est vraiment ce que propose Flota. Et c'est ce qu'une quinzaine de bateaux ont projeté en occupant la mer il y a une semaine. Pour finir cette journée, très brièvement, nous vous proposons de regarder quelques images de cette mobilisation. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Et nous vous proposons de clôturer cet échange comme ils ont débuté, en hommage à toutes les personnes qui ont subi et ou continuent de subir les conséquences violentes de ce système raciste aux frontières. Et à toutes celles et ceux qui luttent, ne nous arrêtons jamais.
Et merci à Radio Galère.
Flota en Méditerranée.
Occuper la mer contre les frontières.
Ouvrir des brèches
contre l'Europe forteresse.
Pour la liberté de circulation de toutes et tous, sans condition.